On va au cinéma avec la Tribune des critiques.
France Inter. Le 6-9 de l'été.
To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick stunt double Cliff Booth.
Rick Dalton et Cliff Booth, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, le face-à-face ou plutôt le côte-à-côte de Once Upon a Time in Hollywood. Pour parler du film de Quentin Tarantino sorti cette semaine, Elisabeth Philippe de L'Obs et Clara Gélio du Figaro Magazine. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Cliff here is meant to help carry the load.
Is that how you describe your job, Cliff?
What, carrying his load? Yeah, it's about right.
Alors, je vais tenter de résumer Once Upon a Time in Hollywood. C'est l'histoire d'un acteur et sa doublure cascade, deux princes déchus, un brin ringard mais cool. Ils évoluent dans le Hollywood de 1969, avant l'assassinat de Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski. Alors, je serais tenté de dire, et vous me corrigerez mesdames, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur Tarantino, mais est-ce qu'on peut dire qu'ici, le duo DiCaprio-Brad Pitt, eh bien, c'est la réussite du film ? Elisabeth Philippe.
Oui, le duo fonctionne très bien. Les deux acteurs sont très bons, chacun dans son rôle. DiCaprio excelle dans le rôle de l'acteur ringard qui ne comprend absolument rien à l'époque dans laquelle il vit. Et Brad Pitt, c'est vraiment l'incarnation du cool, qui exhibe des abdos encore absolument magnifiques. Même le chien de Brad Pitt est excellent. Il a d'ailleurs reçu la Palme d'Or. Donc ça, le duo d'acteurs, il fonctionne. Le film, un peu moins bien. C'est un très beau chant d'amour à Hollywood. Los Angeles est magnifiquement filmé. On se croirait c'est joli comme un compte Instagram. Après, sur le fond, c'est un peu plus compliqué puisque en fait, tout tourne autour de ce moment de bascule que constitue 1969 dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire du cinéma. Et Tarantino parle d'un cinéma à bout de souffle, celui des westerns, des cow-boys. Mais son propre cinéma à lui, ben, il me semble aussi un peu piétiné. On retrouve toujours ce qui fait la marque de ses films, le jeu sur les genres, sur les pastiches, ses fantasmes sur les pieds des femmes. Mais derrière tout ça, c'est un très bon divertissement, mais ça reste un peu, ça manque un peu de profondeur.
Clara Gélio du Figaro Magazine.
Oh, je vous trouve dure quand même. Non, moi je trouve que c'est précieux ce genre de film parce que aujourd'hui on n'en voit plus tellement des films qui sont totalement écrits, mis en scène avec des personnages originaux. Tout est inventé. Alors à partir de certains faits réels, hein, comme dans Inglourious Basterds, Tarantino joue entre fiction et réalité. Mais je trouve que c'est aussi un très bel hommage au cinéma de cette époque. Donc, c'est aussi une vision très intéressante de la bascule entre justement les années 60 et les années 70. On voit tous ces changements à travers les costumes, la musique, mais aussi ben justement ces comédiens qui deviennent déjà, enfin, notamment Rick Dalton, qui est donc interprété par Leonardo DiCaprio, qui devient un peu ringard, qui le sent, et qui dans ce rôle à contre-emploi, parce qu'il est un peu loser, quoi, un peu pathétique, est vraiment magnifique.
Oui, alors vous parliez de bascule, mais c'est aussi une bascule pour Tarantino puisque c'est son premier film post-Weinstein, puisque Tarantino a toujours été produit par Harvey Weinstein, dont on connaît les mésaventures. Et alors, Tarantino qui a toujours quand même donné des rôles magnifiques aux femmes, là je trouve que le rôle qu'il offre à Margot Robbie, celui de Sharon Tate, c'est un peu problématique. Elle a quasiment pas de réplique, c'est un rôle quasiment muet. Et puis vous parliez de jeu entre la fiction et la réalité, alors évidemment on a interdiction de divulguer la fin du film, mais elle est extrêmement problématique pour moi, elle est d'un goût plus que douteux.
Ah oui ?
Oui. Bah, c'est difficile après d'en parler puisqu'on peut pas dire de quoi il s'agit.
On peut parler de Margot Robbie et dans son interprétation de Sharon Tate. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas inintéressant comme rôle et elle est assez émouvante, effectivement, sans énormément de répliques. Mais il y a une scène notamment d'elle se voyant au cinéma qui
oui, c'est charmant.
C'est plus que charmant. C'est assez bouleversant.
C'est charmant, mais tout ça, je trouvais assez gâché par la fin. Vraiment.
That was the best acting I've ever seen in my whole life.
Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, dans les salles donc depuis mercredi. À vos coups de cœur maintenant, mesdames. Alors Clara Gélio, c'est une exposition, celle de la collection Tannhauser à Aix-en-Provence. L'exposition s'appelle « Chef-d'œuvre du Guggenheim » de Manet à Picasso. C'est donc une collection qu'on découvre à Aix-en-Provence, c'est ça hein ?
Oui, c'est ça. C'est toujours très intéressant de voir arriver des collections, surtout celle-là quand même qui va de Monet à Picasso, mais qui passe aussi par Cézanne, Renoir, Braque. C'est extrêmement riche. À Aix, en plus, c'est pas un endroit comme un autre, parce qu'on connaît l'importance jouée par cette ville et ses environs dans le parcours artistique de nombreux maîtres. Donc ça permet de contempler des œuvres qui ont été créées pour certaines sur place ou dans les environs. Donc forcément, ça crée une émotion particulière et même ça crée une sensation particulière. On pense notamment à Van Gogh et ses toiles qui ont été réalisées pas très loin à Saint-Rémy-de-Provence. Donc l'exposition, elle met aussi en lumière le destin hors du commun de cette famille de marchands d'art d'origine juive allemande. Et puis on peut voir donc des tableaux exceptionnels. Alors par exemple de Monet, le troublant palais ducal vu de Saint-Georges majeur, de Renoir l'hypnotique femme à la perruche, des bronzes de danseuses de Degas absolument sublimes. Voilà la fascinante montagne bleue de Kandinsky, mais aussi Gauguin, Seurat. Enfin voilà beaucoup d'œuvres exceptionnelles et qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir et pour cause.
L'exposition chef-d'œuvre du Guggenheim de Manet à Picasso, c'est donc à découvrir à l'hôtel Caumont Centre d'Aix-en-Provence. Elisabeth Philippe, à l'approche de la rentrée littéraire, vous avez choisi un livre.
Entretien d'embauche pour un poste à l'université, trois hommes assis en face de moi. Sur mon CV, il est précisé que je travaille actuellement à un livre sur la couleur bleue. L'un des hommes demande « Pourquoi le bleu ?» Les gens me posent souvent cette question. Je ne sais jamais comment y répondre. Il ne nous est pas donné de choisir qui l'on aime, j'ai envie de dire.
Ça s'appelle Bleuet, c'est signé Maggie Nelson. Alors, Elisabeth Philippe, corrigez-moi si je me trompe, c'est un peu construit pour la forme comme Je me souviens de Pérec, en morceaux, mais sur le fond, c'est assez surprenant parce que le livre est dédié en fait à une couleur.
Donc la couleur bleue, comme on l'a entendu dans l'extrait, comme on aurait pu le deviner à partir du titre Bleuet. Alors vous parliez de Pérec, on peut penser aussi aux fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, et là ce serait plutôt les fragments d'une rupture amoureuse, puisque Maggie Nelson en fait se demande si son amour pour la couleur bleue peut la consoler du vilain coup de blues dû à la perte de son amant. Maggie Nelson, c'est une écrivaine et une poétesse américaine qu'on a remarqué notamment il y a 2 ans avec les Argonautes. Et Bleuet reprend un peu le principe des Argonautes, donc des paragraphes très très courts dans lesquels elle parle aussi bien de philosophie, de douleur, de chagrin ou de sexe. Et toujours, tous ces éléments sont reliés par un fil bleu. C'est vraiment un texte camailleux qui décline le bleu sur tous les tons, le cyan, le turquoise, l'indigo. Elle parle aussi bien des tenues des Touaregs que du manteau bleu que porte le jeune Werther de Goethe. Et tout ça est relié par la pensée de Maggie Nelson. C'est assez fragile, assez sensible et c'est surtout très beau, intelligent, poétique et traduit avec beaucoup, beaucoup de sensibilité par Céline Leroy. Ça paraît donc aux éditions du Sous-Sol. C'est paru le 14 août.
Elle a tout dit, Elisabeth Philippe. Alors, je vous remercie, Elisabeth Philippe de l'Obs, éclairage et lieu du Figaro Magazine.
Merci.
Merci.
Et